Lettre de Mademoiselle de Lespinasse à Monsieur de Guibert. Lettre première. Paris, samedi au soir, 15 mai 1773. Vous partez mardi, et comme j'ignore l'impression que fera sur moi votre départ, comme je ne sais point si j'aurai la liberté ou la volonté de vous écrire, je veux au moins vous parler encore une fois et m'assurer de vos nouvelles de Strasbourg. Vous me direz si vous y êtes arrivé en bonne santé, si le mouvement du voyage n'aura pas déjà calmé votre âme. Ce n'est pas elle qui est malade. Elle ne souffre que des maux qu'elle cause. Et la dissipation, le changement d'objet, suffiront du reste pour la détourner de ce mouvement de sensibilité qui peut vous être douloureux, parce que vous êtes bon et honnête. Oui, vous êtes bien aimable. Je viens de relire votre lettre de ce matin. Elle a la douceur de Gessner, jointe à l'énergie de Jean-Jacques. Eh, mon Dieu, pourquoi réunir tout ce qui peut plaire et toucher? Et surtout, pourquoi m'offrir un bien dont je ne suis pas digne, que je n'ai point mérité? Eh, non, non, je ne veux point de votre amitié. Elle me consolerait, elle m'exaspérerait. Et j'ai besoin de me reposer, de vous oublier pendant quelque temps. Je veux être de bonne foi avec vous, avec moi. Et en vérité, dans le trouble où je suis, je crains de m'abuser. Peut-être mes remords sont-ils au-dessus de mon tort. Peut-être l'alarme que je sens est ce qui offenserait le plus ce que j'aime. Je viens de recevoir dans l'instant une lettre si pleine de confiance en mon sentiment. Il me parle de moi, de ce que je pense, de mon âme, avec ce degré de connaissance et de certitude qu'on a lorsqu'on exprime ce que l'on sent vivement et fortement. Ah, mon Dieu, par quel charme ou par quelle fatalité êtes-vous venu me distraire? Que ne suis-je morte dans le mois de septembre? Je serai morte alors sans regret et sans avoir de reproches à me faire. Hélas, je le sens, je mourrai encore aujourd'hui pour lui. Il n'y a point d'intérêt dont je ne lui fisse le sacrifice. Mais il y a 2 mois, je n'avais point de sacrifice à lui faire. Je n'aimais pas davantage, mais j'aimais mieux. Oh, il me pardonnera, j'avais tant souffert. Mon corps, mon âme, étaient si épuisés par la durée de la douleur. Les nouvelles que j'en recevais me jetaient quelquefois dans l'égarement. C'est alors que je vous ai vu. C'est alors que vous avez ranimé mon âme. Vous y avez fait pénétrer le plaisir. Je ne sais lequel m'était le plus doux, ou de vous le devoir, ou de le sentir. Mais dites-moi, est-ce là le ton de l'amitié? Est-ce celui de la confiance? Qu'est-ce qui m'entraîne? Faites-moi connaître à moi-même. Aidez-moi à me remettre en mesure. Mon âme est bouleversée. Est-ce vous? Serait-ce votre départ? Qu'est-ce donc qui me persécute? Je n'en puis plus. Dans ce moment, j'ai de la confiance en vous jusqu'à l'abandon. Et peut-être ne vous parlerai-je de ma vie. Adieu. Je vous verrai demain. Et peut-être aurai-je de l'embarras de ce que je vous ai écrit aujourd'hui. Plût au ciel que vous fussiez mon ami, ou que je ne vous eusse jamais connu. Croyez-vous? Serez-vous mon ami? Pensez à cela, une fois seulement. Est-ce trop? Lettre 2. Dimanche 23 mai 1773. Si j'étais jeune, jolie et bien aimable, je ne manquerais pas de trouver beaucoup d'art dans votre conduite avec moi. Mais comme je ne suis rien de tout cela, comme je suis le contraire de tout cela, j'y trouve une bonté et une honnêteté qui vous ont acquis à jamais des droits sur mon âme. Vous l'avez pénétré de reconnaissance, d'estime, de sensibilité et de tous les sentiments qui mettent de l'intimité et de la confiance dans une liaison. Je ne dirai pas si bien que Montaigne sur l'amitié, mais croyez-moi, nous la sentirons mieux. Si ce qu'il nous avait dit avait été dans son cœur, croyez-vous qu'il eût consenti à vivre après la perte d'un tel ami? Mais ce n'est pas là ce dont il s'agit. C'est de vous, c'est de la grâce, c'est de la délicatesse, c'est de l'à-propos de votre citation. Vous venez à mon secours, vous voulez que je n'aie pas tort avec moi-même. Vous voulez que votre souvenir ne soit pas un reproche douloureux pour mon cœur, et peut-être offensant pour mon amour-propre. En un mot, vous voulez que je jouisse en paix de l'amitié que vous m'offrez, et que vous me prouvez avec autant de douceur que d'agrément. Oui, je l'accepte, j'en fais mon bien, elle me consolera. Et si jamais je jouis de votre société, elle sera le plaisir que je désirerai et que je sentirai le mieux. J'espère bien que vous m'avez pardonné le tort que je n'ai pas eu. Vous sentez bien qu'il me serait impossible de vous soupçonner un mouvement qui serait contre la bonté et l'honnêteté. Je vous ai accusé pourtant. Cela ne signifiait pas autre chose, sinon que j'étais faible et coupable, et surtout que j'étais troublée, au point de ne plus conserver de présence et de liberté d'esprit. Vous voyez trop bien et trop vite pour que j'aie à craindre que vous vous y soyez mépris. Je suis bien assurée que votre âme ne croit pas avoir à se plaindre des mouvements de la mienne. Je sais que vous n'êtes partie que jeudi à 5h30. J'étais à votre porte 2 minutes après votre départ. J'avais envoyé le matin savoir à quelle heure vous étiez partie mercredi. Et à mon grand étonnement, j'appris que vous étiez encore à Paris et qu'on ne savait pas même si vous partiez le jeudi. J'allais moi-même savoir si vous n'étiez pas malade. Et ce qui vous paraîtra affreux, c'est qu'il me semble que je le désirais. Cependant, et par une inconséquence que je ne vous expliquerai pas, je me sentis soulagée en apprenant que vous étiez parti. Oui, votre absence m'a rendu le calme, mais aussi je me sens plus triste. Il faut que vous me le pardonniez et que vous vous en contentiez. Je ne sais si je vous regrette, mais vous me manquez comme mon plaisir, et je crois que les âmes actives et sensibles y tiennent trop fortement. Ce n'est point l'idée de la longueur de votre absence qui m'afflige, car ma pensée n'en voit pas le terme. C'est simplement le présent qui pèse sur mon âme, qui l'abat, qui l'attriste, et qui à peine lui laisse assez d'énergie pour désirer une meilleure disposition. Mais voyez quelle horrible personnalité. Voilà 3 pages pleines de moi. Et cependant, je crois que c'est de vous que je suis occupée. Au moins, je sens que j'ai besoin de savoir comment vous êtes, comment vous vous portez. Quand vous lirez ceci, mon Dieu, à quelle distance vous serez. Votre personne ne sera qu'à 300 lieues, mais voyez quel chemin votre pensée a fait. Que d'objets nouveaux, que d'idées, que de réflexions nouvelles. Il me semble que je ne parle plus qu'à votre ombre. Tout ce que j'ai connu de vous est disparu. À peine trouverez-vous dans votre mémoire les traces des affections qui vous animaient et vous agitait les derniers jours que vous avez passés à Paris. Et c'est tant mieux. Vous savez bien que nous sommes convenus que la sensibilité était le partage de la médiocrité, et votre caractère vous commande d'être grand. Vos talents vous condamnent à la célébrité. Abandonnez-vous donc à votre destinée, et dites-vous bien que vous n'êtes point fait pour cette vie douce et intérieure qu'exige la tendresse et le sentiment. Il n'y a que du plaisir et point de gloire à vivre pour un seul objet. Quand on ne peut que régner dans un cœur, on ne règne point dans l'opinion. Il y a des noms faits pour l'histoire. Le vôtre excitera l'admiration. Quand je me pénètre de cette pensée, cela modère un peu l'intérêt que vous m'avez inspiré. Adieu. Lettre 3. Lundi 24 mai 1773. Que dites-vous de cette folie? À peine puis-je me flatter que vous m'écoutiez et je vous accable. Mais vous disiez, l'autre jour, qu'on écrivait longuement à ses amis, aux gens qui plaisaient, à ceux avec qui on voudrait causer. Si vous disiez vrai, vous êtes donc obligé non pas à me lire avec intérêt, mais avec indulgence. Je viens de relire cette longue lettre. Mon Dieu, que je la trouve ennuyeuse. Mais je recommencerai que cela ne vaudrait pas mieux. Je me sens en fond pour ennuyer de plus d'une manière. Je suis triste et morte. Voyez ce que l'on peut faire de cela. Mais j'ai des questions à vous faire. Répondez-y, et vous serez bien aimable. Avez-vous eu cette lettre de Diderot? Il prétend qu'il part le 6 de juin. Ainsi, vous le verrez en Russie. Pourquoi n'êtes-vous pas parti mercredi? Est-ce à quelqu'un ou à vous que vous avez accordé ces 24 heures? Avez-vous emporté le livre de Monsieur Thomas? Je le voudrais. Cette lecture aurait été presque au ton de votre âme. Il est noble, fort et vertueux. Il y a sans doute quelques défauts, mais il s'est corrigé de ce qu'il avait d'enflé et d'exagéré dans son style. Il y a trop d'analyse et d'énumération. Cela fatigue un peu, surtout lorsqu'il en coûte beaucoup pour se séparer d'un objet qui occupe avec intérêt. J'ai été obligé d'abandonner cette lecture pour quelques jours. C'est le facteur de la poste qui décide deux fois la semaine de toutes les actions de ma vie. Celui d'hier m'a rendu la lecture impossible. Je ne chercherai que la lettre qui m'a manqué, et ce n'est pas la peine de la chercher dans Monsieur Thomas. Je ne l'y trouverai point. Vous m'avez promis de vos nouvelles de Strasbourg. N'êtes-vous pas étonné à présent d'avoir pris l'engagement de m'écrire souvent? N'avez-vous pas du regret de la facilité avec laquelle vous cédez à l'intérêt et à l'empressement qu'on vous montre? Il est pénible, à 300 lieues, d'agir pour les autres. Il n'y a de plaisir qu'à aller d'après l'impulsion de son mouvement et de son sentiment. Voyez si je suis généreuse. Je m'engage à vous rendre votre parole si vous avez à vous reprocher quelque méprise. Avouez-le-moi, et je vous réponds de n'en pas être blessé. Croyez qu'il n'y a que la vanité qui rende difficile, et je n'en ai point. Je ne suis qu'une bonne créature, bien bête, bien naturelle, qui aime mieux le bonheur et le plaisir de ce que j'aime que tout ce qui n'est que moi et pour moi. D'après cette connaissance, mettez-vous bien à votre aise et écrivez-moi un peu, beaucoup, ou point du tout. Mais ne croyez pas que cela me contente également, car j'ai encore moins d'indifférence que de vanité. Mais j'ai une force ou une faculté qui rend propre à tout. C'est de savoir souffrir, et beaucoup souffrir, sans me plaindre. Adieu. Avez-vous pu arriver jusque-là? Cela n'est-il pas assommant? Lettre 4. Ce dimanche 30 mai 1773. J'ai reçu hier votre lettre de Strasbourg. Il me semblait qu'il y avait bien longtemps depuis mercredi 19. C'est le jour où j'avais reçu votre dernière marque de souvenir. Celle qui m'est venue hier m'a consolée, a fait du bien à mon âme. Elle avait besoin d'être distraite par l'occupation d'un sentiment doux, auquel elle ne put s'abandonner sans trouble et sans remords. Oui, je peux me l'avouer, je peux vous le dire à vous-même. Je vous aime tendrement. Votre absence me cause un regret sensible. Mais je n'ai plus à combattre ce que vous m'inspirez. J'ai vu clair dans mon âme. Ah! L'excès de mon malheur me justifie du reste. Je ne suis point coupable, et cependant, avant qu'il soit peu, je serai victime. Je pensais mourir vendredi en recevant une lettre par un courrier extraordinaire. Je ne doutais pas qu'il ne m'apportât la plus funeste nouvelle. Le trouble où il me jeta m'ôtait jusqu'au pouvoir de décacheter ma lettre. Je fus plus d'un quart d'heure sans mouvement. Mon âme avait glacé mes sens. Enfin, je lus, et je ne trouvai qu'une partie de ce que j'avais craint. Je n'ai point à trembler pour les jours de ce que j'aime. Mais à l'abri du plus grand des malheurs, mon Dieu, qu'il me reste encore à souffrir, que je me sens accablé du fardeau de la vie, la durée des maux est au-dessus des forces humaines. Je ne me sens plus qu'un courage, et très souvent, je n'ai qu'un besoin. Voyez si je dois vous aimer, si je dois chérir votre présence. Vous avez eu le pouvoir de faire diversion à un mal aussi aigu et aussi profond. J'attends, je désire vos lettres. Oui, croyez-moi, il n'y a que les malheureux qui soient dignes d'avoir des amis. Si votre âme n'avait point souffert, jamais vous n'auriez été jusqu'à la mienne. J'aurais admiré, j'aurais loué vos talents, et je me serais éloignée, parce que j'ai une sorte de répugnance pour tout ce qui ne peut occuper que mon esprit. Il faut être calme pour penser. Dans l'agitation, on ne sait que sentir et souffrir. Vous me dites que vous êtes agité de regrets, de remords même. Que votre sensibilité n'est que de la douleur. Je vous crois, et cela m'afflige. Mais cependant, je ne sais pourquoi l'impression que j'ai reçue de votre lettre est si contraire à votre disposition. Il me paraît qu'il y a du calme, du repos et de la force dans toutes vos expressions. Il me semble que vous parlez de ce que vous avez senti, et non de ce que vous sentez. Enfin, si j'avais des droits, si j'étais délicate, si l'amitié n'était pas facile, je vous dirais que Strasbourg est bien loin, mais bien loin de la rue Taranne. Le président de Montesquieu prétend que le climat a une grande influence sur le moral. Strasbourg serait-il donc beaucoup plus au nord que Paris? Jugez ce qu'il y aurait à craindre de Pétersbourg. Non, je ne crains point, je crois en vous, je crois en votre amitié. Expliquez-moi pourquoi j'ai cette confiance, et gardez-vous de croire que l'amour-propre y soit pour rien. Mon sentiment pour vous est purgé de ce vilain alliage qui corrompt et affaiblit toutes les affections. Vous auriez été bien aimable de me dire si ma lettre était seule à Strasbourg. Voyez si je suis généreuse. J'aurais voulu qu'elle pût être changée en celle que vous auriez désiré d'y trouver. Réglons nos rangs. Donnez-moi ma place. Mais comme je n'aime pas à en changer, donnez-la-moi un peu bonne. Je ne voudrais point celle de cette malheureuse personne. Elle est mécontente de vous. Et je ne voudrais point non plus celle de cette autre personne. Vous en êtes mécontent. Je ne sais pas où vous me placerez, mais faites, s'il est possible, que nous soyons tous les deux contents. Ne chicanez point. Accordez-moi beaucoup. Vous verrez que je n'abuse point. Oh, vous verrez comme je sais bien aimer. Je ne fais qu'aimer, je ne sais qu'aimer. Avec des moyens médiocres, vous savez qu'on peut beaucoup quand on les réunit tous à un seul objet. Eh bien, je n'ai qu'une pensée, et cette pensée remplit mon âme et toute ma vie. Vous croyez que la dissipation et l'instruction ne feront que vous distraire de vos amis. Connaissez-vous mieux et cédez de bonne foi et de bonne grâce au pouvoir que votre caractère a sur votre volonté, sur votre sentiment et sur toutes vos actions. Les gens qui sont gouvernés par le besoin d'aimer ne vont jamais à Pétersbourg. Ils vont cependant quelquefois bien loin, mais ils y sont condamnés, et ils ne disent point qu'ils rentreront dans leur âme pour y trouver ce qu'ils aiment. Ils croient ne l'avoir pas quitté, quoiqu'ils en soient mille lieues. Mais il y a plus d'une manière d'être bon et excellent. La vôtre vous fera faire bien du chemin dans toutes les acceptions de ces mots. Je plaindrais une femme sensible dont vous seriez le premier objet. Sa vie se consumerait en craintes et en regrets. Mais je féliciterais une femme vaine, une femme fière. Elle passerait sa vie à s'applaudir et à se parer de son goût. Ces femmes-là aiment la gloire, elles aiment l'opinion, l'éclat. Tout cela est bien beau, bien noble, mais cela est bien froid, et bien loin de la passion qui fait dire « La mort et les enfers paraissant devant moi, ramir avec plaisir, j'y descendrai pour toi. » Mais je suis folle, et pis que cela, je suis curieuse. Je n'ai qu'un ton, qu'une couleur, qu'une manière. Et quand elle n'intéresse pas, elle glace d'ennui. Vous me direz lequel des deux effets l'aura produit. Mais ce que vous me direz aussi, s'il vous plaît, c'est comment vous vous portez. Et moi, je vous dirai à la seule nouvelle qui m'intéresse, l'école militaire n'est pas encore donnée. Lettre 5. Ce 6 juin 1773. Mon Dieu, que ce qui fait plaisir est rare et vient lentement. Il me semble qu'il y a un temps infini depuis le 24, et je ne sais combien il faudra attendre encore une lettre de Dresde. Mais au moins, me promettez-vous, êtes-vous dans la disposition de m'écrire autant que vous le pourrez? N'aurai-je contre mon plaisir, contre mon intérêt, que ce qui ne dépendra pas de vous, c'est-à-dire l'éloignement et la lenteur des courriers? Mais je m'afflige de ce que votre curiosité, de ce que votre activité, en un mot, de ce que vos qualités et vos vertus me sont également contraires. cet amour de la gloire, par exemple, fera que votre amitié, ou plutôt la mienne, ne sera qu'un malheur de plus dans ma vie. Cependant, vous pouvez déjà me dire, comme l'ermite à Zadig, « J'ai quelquefois répandu des sentiments de consolation dans l'âme des malheureux. Oui, je vous dois ce qui fait le charme et la douceur de l'amitié. Je sens que ce lien est déjà trop fort, qu'il a pris trop d'ascendant sur mon âme. Quand elle souffre, elle est tentée de se tourner vers vous pour y chercher de la consolation. Et si elle était calme, elle serait entraînée par un mouvement plus actif, même par le goût du plaisir. Voyez si je suis tout cela pour vous, et si en effet, je ne suis pas mieux fondée à vous aimer et à vous regretter. Tout au plus, mon sentiment vous a été agréable. Et moi, avant que de vous avoir jugé, vous m'étiez devenu nécessaire. Mais que pensez-vous d'une âme qui se donne avant de savoir si elle sera acceptée, avant d'avoir pu juger si elle sera reçue avec plaisir ou seulement avec reconnaissance? Mon Dieu, si vous n'étiez pas sensible, que de chagrin vous me causeriez. Car il ne me suffit pas que vous soyez honnête. J'ai des amis vertueux. J'ai mieux que cela encore. Et cependant, je suis occupée de ce que vous êtes pour moi. Mais de bonne foi, n'y a-t-il pas de la folie, et peut-être même du ridicule à vous croire mon ami? Répondez-moi, non pas froidement, mais avec vérité. Quoique votre âme soit agitée, elle n'est pas si malade que la mienne, qui passe sans cesse de l'état de convulsion à celui de l'abattement. Je ne puis juger de rien, je m'y méprendrai sans cesse, je prendrai du poison pour du calmant. Voyez si je puis me conduire, éclairez-moi, fortifiez-moi. Je vous croirai, vous serez mon appui, vous me secourrez comme la réflexion. Elle n'est plus à mon usage. Je ne sais rien prévoir. Je ne distingue rien. Concevez mon malheur. Je ne me repose que dans l'idée de la mort. Il y a des jours où elle est mon seul espoir. Mais aussi j'éprouve des mouvements bien contraires. Je me sens quelquefois garrottée à la vie. La pensée d'affliger ce que j'aime m'ôte jusqu'au désir d'être soulagée, si c'était aux dépens de son repos. Enfin, vous dirai-je, l'excès de mon inconséquence égare mon esprit, et le poids de la vie écrase mon âme. Que dois-je faire? Que deviendrai-je? Sera-ce Charenton ou ma paroisse qui me délivrera de moi-même? Je vous rends victime et j'en suis affligée, si vous vous intéressez assez à moi pour prendre part à ce que je souffre. Et j'en mourrai de confusion si je ne vous ai causé que de l'ennui. Ne croyez pas pouvoir me le cacher. Quelque esprit que vous y mettiez, vous ne sauriez tromper mon intérêt. Mais contentez-le en disant comment vous êtes. Avez-vous autant ou moins de plaisir que vous n'en espériez? Votre santé est-elle meilleure que dans le dernier temps que vous avez passé ici? Vous êtes bien modeste. Vous ne m'avez pas dit combien vous aviez été célébré à Strasbourg. On a fait des vers à votre gloire. Ils étaient bien mauvais. Mais l'intention était si bonne. Ne vous mettez pas en colère, mais répondez-moi. Avez-vous lu le connétable sur votre route? Non pas en courant la poste, mais dans la bonne société. À propos du connétable, si vous aviez une certaine délicatesse, si vous étiez seulement comme Montaigne, et que vous me regardassiez comme la Boétie, que je vous plaindrais de vous être refusé au plaisir de me donner une marque de confiance, d'amitié et d'estime. Je ne me vante point, mais je vous assure que je serais déchiré de remords si j'avais eu cette conduite envers vous. Qu'est-ce que cela prouve, dites-moi? Adieu. Je connais toute la différence de vos affections. apprenez-m'en la ressemblance. Ce jeu-là n'aura jamais été joué avec autant d'intérêt. Lettre 6. Dimanche 20 juin 1773. Mais, mon Dieu, êtes-vous mort? Auriez-vous déjà oublié que votre souvenir est vif et douloureux dans l'âme de ceux que vous avez quittés? Pas un mot de vous depuis le 24 mai. Il est bien difficile de croire que ce ne soit pas un peu votre faute. Si cela est, vous ne méritez ni le regret que mon cœur sent, ni le reproche qu'il vous fait. J'ai su que M. d'Aguesseau n'avait pas eu de vos nouvelles. Je m'intéresse à vous d'une manière si vraie et si sensible que j'aurais été ravie si j'avais pu apprendre que vous lui eussiez donné la préférence sur moi. Il la mérite sans doute à tous égards. Mais ce n'est pas la justice qui règle le sentiment. Croyez-vous que si cette vertu me gouvernait, je dusse être inquiète de votre silence et avoir besoin des témoignages de votre amitié? Hélas, non. Je ne saurais même m'expliquer pourquoi je m'occupe de vous dans ce moment-ci. J'ai appris hier une nouvelle qui a abîmé mon âme de douleur. J'ai passé la nuit dans les larmes. Et quand ma tête et toute ma machine ont été épuisées, quand j'ai pu avoir un mouvement qui ne fut pas de douleur, j'ai pensé à vous. Et il me semblait que, si vous aviez été ici, je vous aurais mandé que je souffrais, et peut-être que vous n'auriez pas refusé de venir. Dites-moi si je me trompe. Quand mon âme souffre, ai-je tort de chercher de la consolation dans la vôtre? Au milieu de tant de mouvements, de tant d'intérêts si différents, de celui qui touche et attendrit, entendez-vous encore une langue qui est si étrangère à la plupart des gens entraînés par la dissipation ou enivrés par la vanité? Elle n'est guère mieux connue par ceux qui, comme vous, sont occupés du désir de savoir et de l'amour de la gloire. Vous êtes si persuadé que la sensibilité est le partage de la médiocrité que je meurs de crainte que votre âme ne se ferme tout à fait à ce mouvement bien plus déchirant qu'il n'est consolant. Il y a 15 jours que je vous ai écrit, et je croyais hier que je ne vous écrirais que lorsque j'aurais reçu de vos nouvelles. La souffrance a amolli mon âme, et je lui cède. J'ai pris à 5 heures du matin 2 grains d'opium. J'en ai obtenu du calme qui vaut mieux que le sommeil. Ma douleur est moins déchirante. Je me sens accablée avec moins de ressorts. On vient à bout de modérer la violence de l'âme. Je puis vous parler, je puis me plaindre. Hier, je n'avais point d'expression. Je n'aurais pas pu prononcer que je craignais pour la vie de ceux que j'aime. Il m'aurait été plus facile de mourir que de proférer des mots qui glacent mon cœur. Vous avez aimé. Concevez donc ce que font de pareilles alarmes, et jusqu'à mercredi, je serai dans une incertitude qui fait horreur, et qui cependant me commande de vivre jusque-là. Oui, il n'est pas possible de mourir quand on est aimé, et cependant, il est affreux de vivre. La mort est le besoin le plus pressant de mon âme, et je me sens garrotté à la vie. Plaignez-moi, pardonnez-moi d'abuser de la bonté que vous m'avez montrée. Est-ce dans vous ou dans moi que je trouve la confiance qui m'entraîne? On dit que vous n'aurez pas trouvé le roi à Berlin. Aurez-vous été le rejoindre à Stettin, où il devrait être jusqu'au 20? Mais je suis inquiète. Il me semble qu'on pourrait avoir de vos nouvelles de Berlin. que vous seriez coupable si vous aviez la moindre négligence. Et vous savez bien que vous m'avez donné votre parole d'honneur de me faire écrire si vous étiez malade. N'allez pas vous servir de ce prétexte qui contente les amitiés ordinaires, qu'on ne veut pas inquiéter. Cela est détestable. Je ne veux pas être ménagé. Je veux souffrir par mes amis, pour mes amis. Et je chéris mille fois plus les maux qui me viennent par eux que tout le bonheur qui est sur la terre et qui ne tient pas à eux. Bonjour. J'ai encore l'opium dans la tête. Il rend ma vue incertaine. Peut-être me rend-il encore plus bête que de coutume. Mais qu'importe. Ce n'est pas mon esprit. Ce sont mes maux qui vous ont intéressé. Lettre 7. Lundi au soir, 21 juin 1773. Je vous ai écrit hier, et je vous écris ce soir. Si j'attendais 3 jours, c'est-à-dire jusqu'à mercredi, peut-être ne répondrais-je jamais à votre lettre du 10 que M. le chevalier d'Aguesseau m'a apportée aujourd'hui. D'abord, car il y a encore peut-être un avenir pour moi, il faut que je vous dise de m'adresser directement vos lettres. Me les faire passer par l'entremise de M. d'Aguesseau, c'est mettre un hasard de plus contre moi. Le chevalier d'Aguesseau peut aller à la campagne, voyager, etc. Enfin, c'est bien assez d'être à 1000 lieues, n'y ajoutez rien. Oh, je m'en vais vous paraître folle. Je vais vous parler avec la franchise et l'abandon qu'on aurait si l'on croyait mourir le lendemain. Écoutez-moi donc avec cette indulgence et cet intérêt qu'on a pour les mourants. Votre lettre m'a fait du bien. Je l'attendais toujours. Mais j'avais cessé de la désirer parce que mon âme ne pouvait plus avoir un mouvement qui ressemble au plaisir. Eh bien, vous le dirai-je, vous avez fait diversion pendant quelques moments à l'effroi qui absorbe toute mon existence. Ah, mon Dieu, je crains pour ma vie. La mienne y est attachée et j'ai besoin de vous parler. Concevez-vous ce qui peut m'animer et ce qui m'entraîne vers vous. Cependant, je ne suis pas contente de votre amitié. Je trouve qu'il y a de la froideur et de la légèreté à ne me pas dire pourquoi vous ne m'avez pas écrit de Dresde comme vous me l'aviez promis. Et puis, vous me faites sentir d'une manière trop prononcée que le regret de n'avoir pas trouvé à Berlin ce que vous espériez a détruit l'espèce de douceur et de plaisir que vous auriez pu éprouver par le témoignage et l'expression de mon amitié. Et puis, vous le dirai-je, je suis blessée de ce que vous me remerciez de l'intérêt que je prends à vous. Pensez-vous que ce soit y répondre? Vous me trouvez bien injuste, bien difficile. Non, ce n'est rien de tout cela. Je suis bien vraie, bien malade et bien malheureuse. Oh oui, bien malheureuse. Si je ne vous disais pas ce que je sens, ce que je pense, je ne vous parlerais pas. Croyez-vous que, dans le trouble où je suis, on ait le pouvoir de se contraindre? Par exemple, dois-je être touché de cette manière de me dire, sur le premier intérêt de ma vie? Répondez-moi sur tout cela, ce que vous pourrez, ce que vous voudrez. Oh oui, ce que je voudrais. Vous me laissez, en effet, une grande liberté. Mais vous voyez à quoi je l'emploie. Ce n'est pas à vous critiquer, mais à vous prouver ce que vous savez encore bien mieux que moi, c'est qu'on a le ton et l'expression de ce que l'on sent. Et si je ne suis pas contente, ce n'est pas votre faute, et je le sais bien. Aussi, je ne prétends à rien, sinon à cette espèce de consolation qu'on s'accorde si rarement de prononcer toute sa pensée. On est toujours retenu par la crainte du lendemain. Je me sens libre, comme s'il ne devait plus y en avoir pour moi. Et si par hasard je devais vivre encore, je crois pressentir que je me pardonnerais de vous avoir dit la vérité, au risque même de vous avoir déplu. N'est-il pas vrai? Il faut que notre amitié soit grande, forte et entière, que notre liaison soit tendre, solide et intime, ou il faut qu'elle ne soit rien du tout. Ainsi, je ne puis donc jamais me repentir de vous laisser voir toute mon âme. Si ce n'est pas cela que vous vouliez, s'il y a de la méprise, eh bien, soyons de bonne foi, ne soyons ni honteux ni embarrassés. Revenons d'où nous sommes partis. Nous croirons avoir rêvé. Nous ajouterons cet article au chapitre de l'expérience et nous nous conduirons comme les personnes bien élevées qui savent qu'il n'est pas poli de parler de ses rêves. Nous nous tairons. Le silence est si doux lorsqu'il peut consoler l'amour-propre. Vous ne voulez pas me dire quel rang vous m'accordez? Êtes-vous retenu par la crainte de faire trop ou trop peu? Cela peut être selon la justice, mais cela n'est pas noble. Cependant, la jeunesse est si magnifique. Elle aime à donner jusqu'à la prodigalité, et vous voilà, avare comme si vous étiez vieux ou riche. Mais en vérité, vous me demandez l'impossible. Vous voulez que je vous plaigne de ce que vous faites de votre volonté? Il vous faut livrer des combats pour vous rendre à votre caractère. Et, mon Dieu, encore un peu de temps, et je vous réponds qu'il vous gouvernera en despote. L'habitude de vaincre le fortifiera, et il en a si peu besoin. Vous vous êtes dit, j'en suis sûr, et il y a déjà longtemps, qu'il n'importerait que vous fussiez heureux pourvu que vous fussiez grand. Laissez faire, je vous réponds que vous serez très conséquent. Il n'y a de vague et de flottant en vous que votre sentiment. Vos pensées, vos projets sont arrêtés d'une manière absolue. Je suis bien trompé, ou vous seriez propre à faire le bonheur d'une âme vaine et le désespoir d'une âme sensible. Avouez-le-moi, ce que je vous dis là ne vous déplaît point. Vous me pardonnerez de vous aimer moins lorsque je vous prouverai qu'on vous admirera davantage. Vraiment, vous me faites une singulière question. A-t-il de meilleures raisons que moi pour cette absence? Ah oui, il en a de meilleures. Il en a une absolue, et telle que s'il vient à la vaincre, le sacrifice de ma vie ne pourrait pas m'acquitter. Toutes les circonstances, tous les événements, toutes les raisons morales et physiques sont contre moi. Mais il est si fort pour moi qu'il ne me permet pas d'avoir un doute sur son retour. Cependant, je frémis de ce que je peux apprendre mercredi. Il a craché le sang. Il a été saigné deux fois. Au moment du départ du courrier, il était bien. Mais l'hémorragie a pu recommencer. Le moyen de se calmer avec cette pensée. Lui-même en craignait la suite. Quoiqu'il ait pensé à me rassurer, j'ai vu sa crainte. À présent, dites-moi si vous ne savez pas de qui je vous parle, et dites-moi mieux encore, c'est que vous l'avez su lorsque je vous ai écrit pour vous demander le connétable. Est-ce de la délicatesse ou de la finesse qui fait que vous avez paru ignorer un nom que je vous taisais? Mais je ne vous parle pas de votre voyage, c'est que précisément, je n'ai jamais rien à vous en dire, puisque vous-même, vous n'êtes pas encore décidé. Si je pouvais croire que je vivrais, et que vous n'irez jamais en Russie, je désirerais vivement que vous fussiez retenu à Berlin. Mais comme je crois que vous aurez toujours le besoin de faire des choses difficiles, je voudrais que, puisque vous voilà en train, vous fissiez le tour du monde pour que cela fût fait. Et puis, Peut-on se reposer un moment dans l'avenir? À peine serez-vous de retour que vous partirez pour Montauban, et après ce seront d'autres projets, car vous ne souffrez le repos que lorsque vous formez le dessein de faire 1000 lieues. Oui, en honneur, je pense que c'est un malheur dans ma vie que cette journée que j'ai passée, il y a 1 an, au Moulin Joly. J'étais bien éloignée d'avoir besoin de former une nouvelle liaison. Ma vie et mon âme étaient tellement remplies que j'étais bien loin aussi de désirer un nouvel intérêt. Et vous, vous n'aviez que faire de cette preuve de plus de tout ce que vous pouvez inspirer à une personne honnête et sensible. Mais cela est pitoyable. Est-ce que nous sommes libres? Est-ce que tout ce qui est peut être autrement? Vous n'avez donc pas été libre de me dire si vous m'écririez souvent. Pour moi, je n'ai pas la liberté de ne pas le désirer vivement. Après vous avoir bien grondé, je dois pourtant vous dire que vous êtes bien aimable de m'avoir écrit en arrivant. Je le méritais, oui, en vérité.